France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, le monde selon Trump, les démocraties menacent-elles la liberté d'expression et le bon sens en politique? Tout un programme. Nos débatteurs ce dimanche, Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, vous avez publié au PUF Les droits de l'homme. Didier Lesky, bonjour.
Bonjour.
J'ai pas dit bonjour à Magali Lafourcade, pardonnez-moi.
Bonjour.
Didier Lesky, directeur général de l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce grand dérangement, l'immigration en face. C'est un livre que vous avez publié chez Gallimard. Bonjour Laetitia Stroche-Bonnard.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue. Et notre invité ce dimanche, Arnaud Esquéret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche à l'EHESS et vous venez de publier chez Flammarion « Liberté, vérité, démocratie ». Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous essaierons de faire preuve de bon sens, cette vertu prêtée au peuple et que d'aucuns prétendent utiliser comme boussole pour gouverner. Mais le bon sens n'est-il pas un contresens démocratique? Nous en débattrons. Mais pour commencer, une question inspirée à la fois par votre livre, Arnaud Esquéret, et par l'actualité. Les démocraties menacent-elles la liberté d'expression?
Pour moi, la principale menace vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur d'une nature externe. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure. La retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, de valeurs communes avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains.
Trois semaines se sont écoulées depuis le discours de Jill Evans à la conférence de Munich sur la sécurité. Une grosse fessée administrée par le vice-président américain aux démocraties européennes, à qui il reproche de mettre à mal la liberté d'expression. Selon Evans, les Européens se rendent coupables d'entraves aux libertés publiques. Donald Trump opine du chef, l'Europe est en train de perdre son merveilleux droit à la liberté d'expression. Alors comme le dit l'adage populaire, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ainsi, pour avoir refusé de céder à la lubie du président américain, consistant à débaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, l'agence Associated Press a été interdite d'accès au bureau ovale, ainsi que d'avions officiels Air Force One. On pourrait aussi mentionner la censure à laquelle sont désormais confrontés les scientifiques américains, avec l'interdiction annoncée d'utiliser certains mots dans leurs publications comme « inégalité »,« biais » ou encore « héritage culturel ». Pour autant, cette séquence est intéressante dans la mesure où elle nous conduit à réfléchir à la façon dont la défense de la démocratie agit sur la liberté d'expression. À trop vouloir protéger la première, n'affaiblit-on pas la seconde? Est-ce que défendre la liberté suppose de limiter certaines libertés? Et ce n'est pas le seul paradoxe en la matière. Dans votre livre, Arnaud Esquéret, vous faites ce double constat. Nous vivons une période de liberté de parole inouïe, dans laquelle le mensonge prolifère sans entrave, mais dans le même temps, on ne pourrait plus parler librement, certains sujets étant devenus tabous en vertu d'un nouvel ordre moral. Alors d'un côté, l'excès de liberté, de l'autre, l'excès de censure, et vous posez cette question, comment peut-il y avoir autant de fausses nouvelles alors qu'on ne peut plus rien dire? On pourrait en déduire, je vous cite toujours, qu'on ne peut plus rien dire sauf des fausses nouvelles. Ce n'est pourtant pas notre situation. Alors dans ce cas, quelle est notre situation et où en est la liberté d'expression dans nos démocraties? Je vais donc démarrer avec vous, Arnaud Esquéret, et ce constat donc, que vous faites au début du livre. On ne peut plus rien dire et en même temps, la liberté de parole est telle que les fausses nouvelles prolifèrent. Ça ressemble à un paradoxe, mais est-ce que c'est un paradoxe?
Non, c'est pas un paradoxe. Et le discours de J.D. Vance, il est très intéressant parce que il porte en fait, mais comme une politique, ce type de discours qu'on entend, qui est effectivement qu'on ne pourrait plus rien dire dans nos démocraties, qui est un type de discours qu'on entend depuis les années 90. Et donc, si vous voulez, la question qui se pose, c'est il faut en même temps s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce type de discours existe et se dire, quelles en sont ou comment comment pourrait-on l'expliquer? Et je pense que on peut l'expliquer de différentes raisons. La première, c'est que au fond, on a modifié ce qu'on entend par censure on désigne les critiques qui sous le terme de censure, c'est-à-dire parce que il y a certaines critiques qu'on ne supporte pas, en fait, on va dire c'est une censure et on est obligé de faire attention à ce qu'on dit et donc on va s'auto-censurer, terme qui est tout à fait récent.
Ces critiques-là, elles portent sur quoi, par exemple ? C'est-à-dire quand on ne peut plus rien dire, à qui est-ce qu'on reproche de nous empêcher de dire ce que l'on voudrait dire ?
Ces critiques, en fait, elles sont, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elles sont aujourd'hui quasiment dans tout l'arc politique, mais dans le cas de J.D. Vance, évidemment, elle cible ce qu'ils appellent les wokistes, qu'on appelait avant le politiquement correct, et donc il considère en fait que ce sont ces personnes-là qui empêcheraient de parler. Alors, je dis tout de suite que en fait, un des problèmes que pose ce type d'arguments, c'est que en réalité, ça n'empêche pas de parler, ça empêche peut-être de parler à certains endroits, mais ça n'empêche pas de parler à d'autres endroits. Voilà. Et quand on dit ça, on a aussi oublié en fait ce qui était la censure que j'appelle institutionnelle, qui était cette censure exercée par l'État et par l'Église catholique en France. Alors c'était pas le même type de censure et qui est une censure qui a perduré. On a tendance à l'oublier. Jusqu'à la fin des années 60 et 74, avec Valéry Giscard d'Estaing qui dit il n'y a plus de censure, et qui s'appliquait au cinéma notamment. Et pourquoi le cinéma?
Mais il y a aussi, que l'ORTF, c'était pas
à l'ORTF, et donc on fait comme si en fait la libéralisation des médias audiovisuels à partir des années 80 et la fin de la censure institutionnelle était une évidence, mais voilà, ce n'est pas si ancien. Voilà, il y a d'autres éléments à dire sur les raisons pour lesquelles on a ce paradoxe qui est que on a le sentiment de ne plus pouvoir rien dire, enfin en tout cas c'est le type de discours qu'on entend, alors qu'on n'a jamais pu autant s'exprimer aujourd'hui et en particulier dans ces démocraties que sont les démocraties européennes. Et là, il faut simplement peut-être dire par rapport à ce qu'a dit J.D. Vance que peut-être qu'on a un écart sur le sens du mot démocratie aujourd'hui entre ce que nous appelons démocratie, nous, et ce que lui appelle démocratie.
Laetitia Strojbonheur, J.D. Vance, le vice-président américain. Donc, il a raison, à votre avis, sur le fond, de dire que la liberté d'expression se porte mal au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Et s'il n'a pas raison sur le fond, est-ce que, en tout cas, ses propos ne sont pas intéressants, ce qui nous oblige à nous questionner, effectivement, sur l'état de cette liberté d'expression dans nos démocraties européennes ?
Alors, il a raison et tort à la fois, au sens où il faisait allusion, à mon sens, à un certain nombre d'événements qui se sont passés en Europe dans les dernières années, où on a vu que certains propos étaient considérés comme insupportables ou indicibles. Je pense notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez cet été, aux émeutes qui ont eu lieu au Royaume-Uni, suite à la mort d'enfants qui avaient été tués par quelqu'un qui était vraisemblablement issu de l'immigration, ou un réfugié, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y avait eu des émeutes, il y a eu des propos très hostiles à l'immigration qui ont été tenus sur les réseaux sociaux, et des gens qui ont été arrêtés pour cette raison. Et donc, je pense que Vance fait aussi allusion au fait que on n'empêche pas les gens de parler, en fait, mais les conséquences de ces paroles sont disproportionnées par rapport à ce qu'on pourrait attendre dans une société justement démocratique. Il fait aussi référence à ce qu'on a appelé pendant un certain temps la cancel culture. Je pense que le pic de la cancel culture, c'était en 2020, où en effet, et c'était plutôt aux États-Unis d'ailleurs qu'en Europe, on voyait que certaines personnes pouvaient perdre leur travail, par exemple, si il se trouve qu'elles avaient dit des choses qui en avaient offensé d'autres, et d'autres qui se considéraient en effet comme, disons... légitime à polisser le discours de ceux qui n'aimaient pas. Et malheureusement, ceux qui se retrouvaient du mauvais côté, c'était souvent des gens de droite qui se trouvaient vexés des gens de gauche qu'on appelle encore des woke. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'identité entre wokisme et cancel culture, il n'y a pas forcément de similarité, mais il y a quand même des points de rapprochement assez forts entre ces deux concepts.
Mais vouloir désigner, juste pardonnez-moi un instant Laetitia Strobler, c'est-à-dire vouloir désigner des gens comme des wokistes, est-ce que c'est pas une ou des wok, est-ce que ça n'est pas aussi induire le fait qu'ils parlent trop, donc qu'on voudrait réduire leur liberté d'expression? C'est quand même quelque chose de très accusatoire, le wokisme.
Mais c'est possible. De toute façon, la droite n'est pas exempte de défauts en la matière. Elle peut aussi vouloir faire taire ses opposants. Mais je voulais poursuivre sur le deuxième aspect de mon raisonnement. J.D. Vance a tort dans la mesure où, là, je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est vrai que la liberté d'expression est aujourd'hui tout à fait, disons, elle se porte très bien. On n'a jamais pu autant dire ce qu'on avait envie de dire, parce qu'on a des canaux aussi extrêmement nombreux. Enfin, les réseaux sociaux, Internet, et vous avez raison, la censure d'État a quasiment disparu dans nos pays. Ce qui a changé, c'est qu'il y a une censure par le bas, c'est-à-dire une censure de la foule, et c'est pas vraiment une censure, c'est plutôt une intimidation qui crée aussi de l'autocensure. Et là où je pense qu'il faut aussi rappeler une chose importante, c'est que comme toute liberté, la liberté d'expression n'est pas absolue, c'est-à-dire que la liberté d'expression absolue, ça devient une oppression pour certaines personnes, comme toute liberté. Donc il faut la réguler. Et la première façon dont nous régulons d'ailleurs la liberté d'expression, c'est par les bonnes manières. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, parce qu'on a du respect pour les autres. Et même si on n'est pas d'accord avec eux, on essaie quand même de le dire sous une forme à peu près entendable. Donc moi, je défends une liberté d'expression quand même assez large, mais je pense qu'évidemment, elle n'est pas absolue.
Magali Lafourcade.
Alors moi, je voudrais parler donc des droits humains, puisque en fait, on est vraiment au cœur de ce sujet-là. La liberté d'expression est au cœur de notre vision de la démocratie. D'ailleurs, c'est exactement celle que Arnaud Esquiré défend dans son livre. Elle fonde vraiment la démocratie. Pour autant, comme l'a dit Laetitia Sroche-Bonnard à l'instant, ça n'est jamais une liberté absolue. Même aux États-Unis, elle n'est pas totale. Ça n'aurait aucun sens, une liberté absolue. Il y a dans le corpus des droits humains que très très peu de droits qui sont considérés comme absolus, indérogeables, univoques. Les autres sont tous soumis à des limites. Et les bornes qu'on pose à la liberté d'expression, ce sont les droits des tiers, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de diffamer, j'ai pas le droit d'apporter atteinte, Hervé, à votre réputation. Et puis les limitations d'ordre public, notamment l'appel à la haine. Donc vous avez le droit dans notre pays de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de délit d'opinion. Ça, c'est central de le rappeler. Il n'y a pas de délit d'opinion dans nos démocraties. Il y a une répression de l'incitation, de la provocation à la haine, à la discrimination, à la violence. Il y a aussi un cœur de vérité qu'on ne veut pas, sur lesquels on n'est pas prêt à céder, c'est autour du négationnisme. Voilà, donc tout le reste, et Arnaud Esquiré le dit très bien dans son livre, on a des énoncés faux et des énoncés vrais qui circulent dans une démocratie, mais il y a un tout petit filet de protection qui est autour de ça. Et l'État a une double responsabilité par rapport à ça. La première, c'est ne pas s'ingérer dans une liberté aussi centrale, et donc c'est la fin de la censure institutionnelle. Et la deuxième, c'est d'organiser les conditions d'exercice de notre liberté. C'est pareil pour la liberté de manifester, c'est pareil pour d'autres libertés. Et donc, pour cela, il doit permettre à chacun un libre accès à l'espace public. Or, aujourd'hui, l'espace public est privatisé par des puissances qui non seulement essayent de faire du profit, quand Facebook annonce qu'il arrête le fact-checking, c'est aussi une manière de monétiser les énoncés viraux qui seront sûrement les plus mensongers. Et puis, la deuxième chose, c'est porter une idéologie qui est celle des milliardaires qui sont les propriétaires de ces plateformes qui utilisent notre espace public à des fins qui sont des fins dangereuses.
Et c'est pour ça... Mais en même temps, Magali Lafourcade, cet espace public, il n'a jamais jamais été autant accessible. Alors certes, peut-être qu'il est détenu en partie par des intérêts privés, mais il n'a jamais été autant accessible aux tout-venants. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des experts qui pouvaient s'exprimer dans cet espace public. Là, aujourd'hui, tout le monde a peut-être le même niveau, en tout cas, d'expression. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être une forme de gêne de la part de ceux qui avaient une forme de monopole de la parole aujourd'hui, de la partager aujourd'hui avec tout le monde.
Je crois que c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux algorithmes, les énoncés portés par ces idéologues sont poussés par ces algorithmes de manière très opaque. Et il y a beaucoup d'opinions contraires qui sont, notamment celles de ceux qui sont caractérisés de manière infamante, de woke, parce que c'est une invective hein, aujourd'hui. Ceux-là sont invisibilisés par ces algorithmes. Donc on n'a pas du tout le même accès et la même résonance, et c'est l'exposition qui change. C'est ce que Arnaud Esquéré appelle sous le terme de circulation des informations. Donc on a le sujet de l'information fiable, de la désinformation, et puis le sujet justement de cet accès privatisé capturé par les puissances de l'argent.
Didier Lesky.
Je crois que ce qui est frappant, et c'est ce que vous disiez Arnaud Esquéré, c'est que il y a une absence de débat. Voilà, et c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace public de débat en réalité. On pourrait même le dire symboliquement, l'arrêt de la revue Le Débat est une manière de montrer qu'il n'y a plus d'espace public. Donc chacun accuse l'autre de vouloir le censurer parce que fondamentalement on ne veut pas débattre avec lui. Et c'est un sujet très ancien de savoir s'il y a un espace public démocratique de qualité qui permet les échanges. Moi je suis frappé par le fait que ça s'est fondamentalement écroulé d'une certaine manière et même dans des enceintes où, historiquement, on était plutôt pour la liberté. Je pense à l'université, par exemple, parce que j'ai été, dans mon jeune temps, syndicaliste étudiant. Je vois bien que quand une organisation étudiante dit je veux censurer Eschyle parce que je suis contre ce type de représentation telle qu'elle a été pensée par le metteur en scène, parce qu'il y aurait du blackface. Et si on reporte ça au débat, qu'il y a la défense, par exemple, par l'UNEF des pièces de Jean Genet, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est effondré et où chacun veut s'autoriser à censurer l'autre. Alors, bien évidemment, la question de la limite de la liberté, de la liberté de la presse, les révolutionnaires français, Robespierre n'était pas pour la liberté infinie de la presse, il le disait, puisqu'il était contre la perversion de l'espace démocratique par la langue. Et vous faites référence à Klemperer, à l'idée que les nazis pervertissent la langue. Et donc, ça, on sait bien. Mais c'est très différent, je pense, cette question de la qualité l'acceptation du débat entre les différentes positions de la question des fausses nouvelles ou des fake news. Les fake news, ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, on a passé toutes les années 50 à expliquer de manière majoritaire, même dans des revues qui n'étaient pas directement inféodées au Parti communiste, encore qu'intellectuellement elle l'était, que l'Union soviétique, c'était le paradis. Victor Serge sort « S'il est minuit dans le siècle » en 1939, chez Grasset, et c'est pas un succès de littérature, alors qu'il explique noir sur blanc, après d'autres, ce que c'est véritablement l'Union soviétique, et Malraux refuse de l'entendre. Donc,
peut-être que les fake news circulaient pas de la même manière à l'époque, non plus.
Elle s'articulait quand même massivement, parce que c'était des tirages importants, et en tout cas, elle circulait suffisamment pour arriver à dominer intellectuellement des masses de gens par million. Donc la question de la fausse nouvelle est pas exactement la même que la qualité du débat et l'acceptation du débat. Or, ce que dit le livre, d'une certaine manière, c'est qu'il y a un refus fondamental de débattre avec l'autre. Et voilà, et on l'accuse, dès qu'il a une position qui ne nous plaît pas, d'être ceci, cela, et donc de le disqualifier. Alors, on peut dire c'est wokisme d'un côté, ou c'est autre chose de l'autre, mais voilà, on disqualifie l'autre. Voilà, on va dire que sur l'immigration, dès lors qu'il a une nuance, il est quasi-fasciste, ou sur le genre, dès lors qu'il pense que le sexe n'est pas forcément une construction sociale ou pas uniquement une construction sociale, il est anti je ne sais pas quoi.
Illustration peut-être alors justement de cette difficulté à faire vivre le débat, Arnaud Esquéré retourne aux États-Unis hein, dont on vante toujours le fait que la liberté d'expression est une valeur absolument cardinale. Il y a quelques jours de cela, Jeff Bezos qui est désormais alors qui est le patron d'Amazon et qui est le patron désormais du Washington Post, qui a envoyé un petit document à la rédaction du Washington Post en expliquant que désormais le journal ne publierait plus de tribunes qui vont à l'encontre des libertés personnelles et des marchés libres. Est-ce que ça, vous y voyez-vous, par exemple, une atteinte à la liberté d'expression? Ou bien est-ce que finalement, ne pas vouloir avoir des tribunes qui vont contre les libertés personnelles et contre le marché libre, ça peut sembler quelque chose finalement d'assez légitime et peu attentatoire à la liberté?
Mais, c'est-à-dire, ça a été un peu dit hein, déjà, vous l'avez rappelé, c'est que quand on parle de cette question de la liberté d'expression, il faut poser la question de la production de l'espace public. C'est indissociable. Alors, le problème de l'espace public, c'est qu'on le désigne de deux manières différentes, c'est-à-dire on oppose espace public à espace privé, et on a l'impression en fait que cette ligne suffit en fait à considérer que si c'est pas privé, c'est public, en gros, hein, pour le dire simple. Mais en réalité, l'espace public, lui, est composé d'une multitude de petits espaces publics ou de grands espaces publics qui sont produits. Alors la question c'est qui les produit ? Parce que quand vous produisez cet espace public, vous créez la possibilité d'une inégalité dans la manière dont on peut prendre la parole. Donc vous disiez tout à l'heure effectivement que on peut beaucoup plus facilement prendre la parole, mais la question c'est comment circule ensuite cette parole et qu'est-ce que c'est que la production de cet espace public? Donc, dans le cas que vous soulevez concernant Jeff Bezos, la question qui est posée, en fait, c'est toujours une question qui revient, c'est celle de l'actionnaire. Alors, en l'occurrence, l'actionnaire d'une rédaction qui va modifier la manière dont travaille la rédaction d'un journal par rapport à un ensemble d'éléments qui sont que le journal doit faire ce travail de produire, ou en tout cas, pour le Washington Post, de dire en fait ce qu'il en est de la réalité, c'est-à-dire de mettre en avant des faits vrais. Et donc la question qui se pose, c'est la question de la maîtrise de l'information par une rédaction indépendamment de son actionnaire. Et c'est là où il y a actuellement une tension qui est très forte. C'est pas une tension nouvelle, mais c'est une tension qui est extrêmement, extrêmement forte. Et pour ce qui concerne les réseaux sociaux, là, on pourrait avoir d'autres réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est pas le problème des réseaux sociaux en soi. C'est qui possède les réseaux sociaux et comment ils sont organisés.
Mais il y en a d'autres. Alors, il y a X, donc ex-Twitter, mais il y a aussi, par exemple, Blue Sky.
Alors, voilà.
C'est un réseau qui se veut beaucoup plus, vertueux du point de vue, justement, du respect des personnes.
Il y a Blue Sky, il y a Mastodon. C'est des réseaux qui sont plus petits aujourd'hui en termes d'abonnés, mais on peut tout à fait imaginer une alternative. Et je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, que ces alternatives sont possibles. Si on prend le cas de la radio, puisque nous sommes à la radio, voilà, à la fin des années 70 et au début des années 80, il y avait ce qu'on appelait les radios libres, ensuite les radios associatives, qui étaient une manière de faire vivre l'espace public complètement différemment de ce qui était ou bien la radio d'État, la radio publique, ou bien ensuite les radios privées. Donc il y a toujours des possibilités en fait d'organiser l'espace public différemment et de veiller à ce que la manière dont on prend la parole dans cet espace soit égale. C'est ça en fait, je pense, un des enjeux actuels autour de cette question de la liberté d'expression et non pas seulement des limites de la liberté d'expression.
Dans l'audiovisuel en France, il y a une institution qui régule l'espace public, c'est l'ARCOM. L'ARCOM qui a décidé, il y a quelques temps, mais la décision est devenue effective le 28 février dernier, de ne pas renouveler les chaînes Energy 12 et surtout C8. Je dis surtout C8 parce que c'est celle où officie en tout cas Cyril Hanouna qui n'a pas été reconduite et d'aucuns y ont vu une atteinte justement à la liberté d'expression. Vous en pensez quoi vous Laetitia Strauss-Bonnard? Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Et est-ce que à minima la décision de l'ARCOM n'a pas été une erreur en érigeant finalement Cyril Hanouna en martyr de cette liberté d'expression?
C'est possible, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, là franchement j'avoue mon ignorance, mais j'aurais voulu revenir sur un point que vous venez de souligner, sur la question de l'actionnariat, en gros de l'influence des intérêts privés dans la construction de l'espace public. Pour moi, le problème n'est pas là, je pense qu'il est encore plus profond, au sens où un réseau social par définition, donc sur Internet, tel qu'aujourd'hui un réseau social existe, ne peut pas être un espace de débat. Quel que soit son nom, son propriétaire, quel que soit son... Ça pourrait même être un réseau public, Radio France, disons, qui fait un réseau social de discussion.
Pourquoi ça ne peut pas être un espace
de
débat?
Alors, c'est mon point de vue. Eh bien, je pense que on ne peut pas argumenter, on ne peut pas débattre sur un espace qui est dont l'architecture même empêche la discussion, le recul, la réflexion, le temps long. En fait, c'est tout le contraire. Le réseau social, c'est quoi? C'est l'instantanéité, la synchronicité, puisqu'on est, on ne parle pas en même temps aux gens à qui, en fait, on écrit. C'est complètement asynchrone. Il y a une désincarnation totale, en fait, de la discussion. C'est le contraire de ce qu'on fait là. Là, on se voit, on parle à des êtres humains. Le fait de désincarner complètement l'échange explique aussi pourquoi les gens peuvent s'envoyer de telles insultes, en fait, parce qu'ils se déshumanisent mutuellement. Mais je vais aller plus loin encore. Je pense que dès la télévision, en fait, on a perdu la capacité à vraiment débattre. Je pense que le débat démocratique, alors bon, on n'est plus à Athènes, hein, heureusement ou malheureusement, mais le débat démocratique, c'est finalement a connu son apogée avec la presse. Ça n'était pas parfait, hein, il y avait aussi des actionnaires. Mais là, quand même, on avait le temps. On avait le temps d'écrire, on avait le temps de lire, on avait le temps de réfléchir, on avait le temps de répondre.
Mais c'était certain qu'il y avait accès aussi à la presse écrite, c'était pas tout le monde. Il fallait quand même
avoir... Oui, mais maintenant, on a quand même les moyens. Tout le monde sait lire et oui. Tout le monde peut avoir accès à cette presse. Je voulais citer un livre que j'estime majeur hein, dans sur ce sujet, qui est celui de Neil Postman, qui s'appelle « Se divertir à en mourir ». Je ne sais pas si ce livre vous dit quelque chose. Il est sorti en 1985 et c'est une critique acerbe, magnifique, de ce que la télévision a fait au débat public aux États-Unis, où il explique comment, en fait, la télévision a introduit, en fait, le divertissement et a remplacé et a contaminé le débat intellectuel par le divertissement. Et bien moi, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'en est même plus au divertissement, on est dans le régime de la stimulation attentionnelle. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui va stimuler l'attention de celui qui est sur le réseau pour que la plateforme maximise son revenu? Et ça, c'est, à mon avis, c'est absolument incompatible avec un débat démocratique digne de ce nom.
J'ai l'impression que Didier Leschi boit du petit lait, là.
Non, mais bravo, Hervé Gardette, parce que Laetitia Strauss-Bonnard réhabilite un slogan de mai 68, si vous voulez, ouvrez les yeux, cassez la télé. Voilà. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire, ouvrez les yeux, cassez la télé, c'est-à-dire que l'assemblée générale de discussion est plus importante que d'écouter le général le soir.
Je suis d'accord.
En plus, on peut en discuter après. Et je crois que c'est ça qui manque. Et je pense que dans l'affaire C8, il y a quelque chose qui est une erreur pour ceux qui c'est pas mon point de vue sur faut-il ou pas, mais il y a une erreur à penser que c'est simplement l'existence de C8 ou de CNews qui influence à ce point-là les masses. Voilà, je pense que la difficulté et qui a été faite par les radios qu'on a appelées libres à un moment donné et qui est celle de notre société, c'est que la multiplication de ces réseaux comme les radios libres a été concomitante avec une anomie grandissante de la société. Voilà, la fin de l'idée de l'assemblée populaire démocratique ou des organisations, des lieux où physiquement on débat. Et je pense que c'est important. Et je veux dire, on le sait, depuis la philosophie antique, voilà, que c'est important de pouvoir confronter et d'être là physiquement. Et c'est renforcé sur les réseaux sociaux par l'anonymat, qui est vraiment, d'une certaine manière, la manière de dire des choses sans s'engager. Voilà. L'anonymat, c'est ça. Donc, on peut dire n'importe quoi, puisque de toute façon, on ne sait pas qui le dit. Voilà. Et donc, on se laisse aller au pire des sentiments. Voilà. Et donc, du coup.
Juste sur C8, enfin, petite parenthèse, puisque vous y revenez, il faut rappeler quand même que l'argument de l'ARCOM, hein, ça n'est pas de dire les idées qui sont véhiculées, qui étaient véhiculées
je
par
cette chaîne
sont mauvaises, c'est de dire, il y avait un cahier des charges, il n'a pas été respecté, il y a eu des amendes.
Absolument.
Donc, à un moment donné, on arrête.
Mais cet argument de l'ARCOM, d'une certaine manière, il est peu utilisé par ceux qui veulent absolument condamner C8. Je comprends tout à fait l'argument de l'ARCOM, il me semble légitime. Mais dans le débat autour de C8 comme sur d'autres radios, qu'est-ce qu'on dit? On dit son discours est odieux, il est intolérable, il est vulgaire, etc. Et toute une série de gens ont participé de cette vulgarité jusqu'à se faire élire député grâce à cette vulgarité. Hein, mais le fond du problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Voilà, il y a un cahier des charges et il y a la manière dont on peut être dans le débat. Et dans le débat, il faut faire attention à une chose, c'est qu'interdire un journal comme interdire une radio, ça ne fait pas disparaître en soi les idées. Voilà. Disparaître les idées, eh bien, c'est les combattre et c'est
Il a
n'a pas été
interdit. Pardon, Esquerret.
Non, mais je veux dire, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est simplement, on lui retire sa fréquence.
Non, mais il y a cette idée.
Non, mais je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les questions d'interdiction parce que on n'interdit pas. C'est simplement.
Ce que je veux vous dire, c'est que dans le débat public actuellement, j'entends des tas de gens qui disent, bah oui, il faudrait interdire CNews parce que CNews alimente l'extrême droite. Je pense qu'on ne fait pas disparaître des idées qu'on n'aime pas simplement par l'interdiction d'un vecteur. Voilà, c'est pas la simple interdiction de l'Action française qui a empêché l'Action française de diffuser dans l'ensemble de la société et de considérer que Vichy était sa revanche.
Arnaud Esquerret, juste.
Non, c'est-à-dire ce qui me frappe dans ce débat, c'est que comme l'a rappelé Magali, il y a des règles. Donc la question en fait, hein, c'est que qui assure le respect de ces règles ? Et c'est souvent les autorités indépendantes ou les juges. Donc en fait, ceux qui sont mis en cause dans ces questions sur les libertés d'expression, eh bien, ce sont les juges qui rappellent qu'il existe des règles, comme ça a été le cas au Brésil quand un juge a interdit X pendant un moment parce que en fait, il ne respectait pas les règles d'une grande démocratie, qui est la démocratie brésilienne. Et c'est encore le cas quand J.D. Vance met en cause la Cour constitutionnelle en Roumanie quand elle annule le premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, il faut souligner en fait que ces juges, ces autorités indépendantes, elles ont une fonction essentielle dans le fonctionnement de la démocratie et justement du maintien de la liberté d'expression.
Magali Lafourcade.
Moi, je trouve quand même qu'on a assisté là à un échange assez étonnant sur les réseaux sociaux et même la télévision, parce qu'il y a quand même aussi de très bonnes choses. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen qui a pu faire émerger plusieurs mouvements à mettre à l'agenda politique, hashtag MeToo, hashtag Black Lives Matter. Donc, c'est aussi un outil des défenseurs des droits humains. Et je crois que si on veut, ici, on partage tous la même idée que le débat est extrêmement important. Et là où on peut se rejoindre, c'est qu'il faut une véritable éducation à la citoyenneté pour pouvoir arriver à faire du commun et à débattre sereinement sur des bases factuelles vérifiées et fiables, et que les réseaux sociaux, effectivement, c'est un outil sur lequel il faut apprendre aux utilisateurs que l'anonymat n'existe pas, c'est du pseudonymat, et qu'il faut reprendre ce que disait Laetitia tout à l'heure sur les bonnes manières, et qu'il faut savoir se comporter dignement quand on en fait usage.
On est quand même d'accord qu'il n'y a rien de mieux que la radio, finalement.
Ah oui,
discuter. Allez, on passe à notre deuxième sujet,
même
qui n'est pas sans...
Avec l'oreille en coin, Pierre Codou et Jean Garrigou.
Oh là là, les vieux souvenirs de Didier Leschi. Allez, on passe à notre deuxième sujet, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec cette discussion. Hein. Bon sens, mais c'est bien sûr.